En 1968, les Jeux Olympiques ont lieu pour la première fois dans un pays d'Amérique latine, le Mexique. Ces Jeux de Mexico sont sans doute parmi les plus marquants de l'histoire. On dit parfois que la mémoire, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Eh bien, de ce Mexico 68, il reste au moins une image forte et quelques noms d'athlètes qui vont perdurer à travers le temps. Mais d'abord, le contexte. 68 est une année trouble, agitée. Il y a bien sûr la contestation étudiante de mai 68. Il y a aussi le printemps de Prague qui s'achève avec l'entrée tragique des chars soviétiques dans la capitale tchécoslovaque. Et puis, il y a aux États-Unis l'assassinat de Martin Luther King et, deux mois plus tard, de Robert Kennedy. Puis à Mexico, 15 jours avant l'ouverture des Jeux, l'armée ouvre le feu sur les étudiants qui manifestent. C'est un massacre. Il n'y a pas de bilan officiel, mais il tourne autour des 300 morts. Un sacré paradoxe par rapport à la devise officielle des Jeux de Mexico. Todo es posible en la paz. Tout est possible dans un monde en paix. La colombe en prend un sacré coup dans l'aile. Le moment phare des Jeux de Mexico, c'est le podium du 200 mètres masculin. La médaille d'or est octroyée au noir américain Tommy Smith, qui vient de passer sous la barre mythique des 20 secondes. La médaille de bronze est pour son compatriote noir lui aussi, John Carlos. Et c'est l'Australien, blanc, Peter Norman, qui est médaille d'argent. Tous trois vont poser un acte qui entre dans l'histoire. L'hymne américain retentit, on hisse les drapeaux américains australiens, et c'est alors que Smith et Carlos brandissent le poing vers le ciel, tout en baissant la tête vers le sol. Smith lève le poing droit et Carlos le gauche. Leurs poings sont couverts d'un gant noir. Les deux athlètes marquent ainsi leur défiance par rapport à leur pays, qui, à l'image de sa statue à l'entrée de New York, se présente comme le phare de la liberté dans le monde, alors que dans le sud des États-Unis, la ségrégation est toujours une réalité et la minorité noire reste opprimée. En pleine bataille pour les droits civiques, cette action a un retentissement énorme. Mais ce point levé, ils vont le payer cher. Et quand on dit « ils », ce sont évidemment les deux Américains, Smith et Carlos, mais aussi le troisième homme, l'Australien Norman. Car le CIO n'a pas apprécié. Pas de politique au sein des Jeux. Smith et Carlos sont bannis du village olympique. Et surtout, ils sont suspendus par la Fédération américaine d'athlétisme, autrement dit, ce geste leur coupe leur carrière d'athlète. Quant à Peter Norman, pleinement solidaire de l'action et qui arborait d'ailleurs le badge du projet olympique pour les droits humains, 4 ans plus tard, la Fédération australienne ne le sélectionne pas pour les Jeux de Munich. À Sydney, en 2000, il ne sera même pas invité, alors qu'il reste encore aujourd'hui détenteur du record d'Australie du 200 mètres. À l'instar de Smith et Carlos, sa carrière sportive se trouvera ruinée par un geste qui liera à jamais les trois hommes. Ainsi, lorsque Norman meurt en 2006, Smith et Carlos viennent assister aux obsèques et portent son cercueil. Et en 2016, ils seront reçus à la Maison-Blanche par Barack Obama. Au plan sportif, deux autres athlètes vont marquer l'histoire des Jeux de Mexico et ils sont tous deux américains. Il y a d'abord Bob Beamon, un autre noir américain marqué par le geste de ses compatriotes Smith et Carlos et par la réaction très dure de la Fédération américaine d'athlétisme envers eux. S'y ajoutent des soucis personnels. Alors, le 17 octobre au soir, veille du concours du saut en longueur auquel il doit participer, il passe une soirée très arrosée. Et pourtant, le lendemain, il est dans le stade pour le concours du saut en hauteur. Il est le premier à s'élancer. Course et élan parfait. Le voilà qui bondit dans l'air pour retomber 8 mètres 90 plus loin, soit 55 cm en plus que le record du monde. En 1991, Mike Powell battra ce record en sautant à 8 mètres 95 au championnat du monde. Mais Beamon détient encore aujourd'hui le record olympique. On n'a donc jamais fait mieux depuis 56 ans au JO. Sans doute que l'altitude a pu aider. On a d'ailleurs battu pas mal de records à Mexico, situé à plus de 2000 mètres d'altitude. Mais cela reste un incroyable exploit. Autre performance historique de Mexico, et qui, elle, n'a rien à voir avec l'altitude, celle d'un autre Américain, Dick Fosbury, qui va révolutionner la technique du saut en hauteur. Jusque-là, on sautait en ventral, face à la barre donc. Fosbury, lui, saute de dos. On n'avait jamais vu ça aux Jeux Olympiques. Le public mexicain s'enthousiasme en criant « Olé !» à chaque saut réussi de Fosbury, qui remporte la médaille d'or et passe à la postérité en donnant son nom à ce qui s'appelle aujourd'hui le saut Fosbury et qui est pratiqué par tous les athlètes. On termine avec un mot de la délégation belge. Pas de titre olympique, Mexico n'est pas un grand cru pour nous, juste deux médailles. Une de bronze en cyclisme, ça c'est un de nos traditionnels points forts, mais la médaille d'argent est conquise dans une discipline inédite pour nous, l'haltérophilie. Avec une personnalité attachante, Serge Redingue, un Ardennais vivant à Bruxelles, employé à la Bibliothèque Royale et véritable colosse de 140 kilos. L'haltérophilie, c'est soulever une barre aux épaules, l'épauler, puis la tenir au-dessus de sa tête, épauler, jeter. À votre avis, pour sa médaille d'argent à Mexico, combien Serge Redingue a-t-il soulevé de kilos? 555, soit 4 fois son poids. Un conseil, n'essayez pas de faire de même chez vous. Mais cela résume les extraordinaires efforts que réalisent ces athlètes dans une discipline qui fait rarement la une des journaux.